Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk sur lequel nous allons parler de VivaTech, le salon de la tech européen, peut-être même mondial en cette période de fin mai qui va arriver prochainement. On va décrypter dans cet épisode l'ensemble, alors peut-être pas des tendances puisqu'on va attendre le salon pour ça, mais en tout cas des éléments marquants qu'il ne faudra pas rater sur cette prochaine édition. Bonjour Lionel.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et oui, VivaTech, c'est pour bientôt du 22 au 25 mai, porte de Versailles. Paris se transformera le temps de quelques jours en temple international de la tech, avec une année un peu particulière, pré-JO pour commencer, mais également une année autour du Japon. Le Japon qui sera l'invité de cette édition.
Oui, le Japon cette année qui présentera tout son écosystème technologique, hein, et c'est un pays malgré tout d'innovation, tous les fanatiques d'électronique grand public le connaissent bien, et évidemment ce sera des délégations institutionnelles, ce sera des entreprises, des start-up et de nombreux autres éléments qui font du Japon une grande force technologique. C'est très intéressant, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y aura aussi l'Africa Tech qui sera présente, et notamment avec les Awards pour sa troisième année consécutive. Il faut aussi pas oublier ce continent très génial dont on a rencontré quelques représentants, notamment du Nord-Afrique avec le Maroc, qui sont très axés technologie, notamment dans les technologies de l'aéronautique.
Oui, aéronautique et aussi durabilité et impact. On sent effectivement qu'il y a un terreau extrêmement fertile puisqu'on va chercher la substantielle valeur de ce que la tech pourra apporter dans ces territoires qui sont des territoires extrêmement variés, avec une végétation extrêmement large et pour lesquels il y a beaucoup de choses à faire. L'approvisionnement effectivement des terres, la recherche d'eau sont des sujets qui sont extrêmement intéressants, et l'aérien, tu le soulignes naturellement. Bref, un vivier de créateurs. C'est pas la première fois d'ailleurs que l'Africa Tech est présente, puisqu'elle était de manière embryonnaire présente il y a, je crois, 2-3 ans. Déjà, sur lequel Gilles Babinet avait d'ailleurs fait une intervention à ce sujet pour mémoire. Avant qu'on attaque quand même l'édition 2024 et qu'on parle aussi peut-être de l'édition 2023, pour ceux qui ne connaissent pas VivaTech, Lionel, est-ce que tu pourrais résumer ce salon si particulier à nos auditeurs ?
VivaTech, c'est probablement le salon européen de l'innovation. Voilà, c'est une structure qui est extrêmement dense, hein, parce que certes, le hall 1 du Paris Expo Center à la porte de Versailles est très grand. C'est là où ceux qui aiment l'agriculture voient tous les grands animaux de la ferme. Mais dans ce grand hall, la densité est très importante. D'abord, beaucoup de grandes entreprises sont présentes et ces entreprises accueillent de très, très nombreuses startups sur leur stand. Et donc, c'est cette densité qu'il faut témoigner. Sur les 4 jours l'année dernière, le salon a accueilli plus de 120 000 personnes, je crois, et avec une augmentation cette année qui est attendue à plus 30% encore. Alors ça, c'est toujours les prévisions. Je ne sais pas comment ils comptent. Est-ce qu'ils comptent chaque fois qu'une personne rentre ou chaque passe d'entrée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour bien vivre VivaTech, sa densité vous oblige quasiment à y venir plusieurs jours d'affilée.
On verra cette année. On pourra toujours effectivement. Alors c'est vrai que on est toujours étonné chaque année du nombre de personnes qui participent à VivaTech. Donc se pose la question du mode de calcul, puisque quand on le compare au CES de Las Vegas, qui quand même cette année avoisinait les 140 000 personnes, je crois si je me trompe pas, on est quand même sur des chiffres qui sont équivalents. Ce qui fait que des fois d'ailleurs on confond pas, mais on parallélise un petit peu VivaTech et le CES. Tu l'as souligné, des grands groupes qui accueillent des startups, mais d'une manière peut-être un peu différente, puisque le temps du début de VivaTech était quand même le temps de l'incubation dans lequel les startups étaient dans les entreprises qui les accueillaient, a bien changé. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur d'autres modes de collaboration.
On est sur des collaborations qui sont plus liées à des challenges. Alors, évidemment, comme on n'a pas que des entreprises qui sont présentes, on a aussi des régions, puisqu'on a aussi des pays. Donc, le pays, il va apporter les startups qu'il trouve iconiques et emblématiques. Les régions font la même chose et les entreprises, souvent, passent par des challenges ou des entreprises, par exemple, comme Total, présentent les startups qu'elles ont accepté d'accompagner, pas forcément d'incuber, mais d'accompagner pendant une partie de leur développement. C'est souvent des modes de collaboration qui sont différents en fonction des entreprises. Toi, tu pourrais donner l'exemple des startups qui sont présentes ou des technologies qui sont présentes chez Capgemini, puisque ton entreprise expose. Et oui. C'est très différent d'autres entreprises qui peuvent être voisines de la vôtre.
Ah oui, totalement. Ce que je trouve absolument passionnant, c'est cette diversité d'approches de l'innovation entre les différents exposants, tous ces grands groupes. Certains viennent avec énormément de startups. On se souvient l'année dernière de LVMH, de SNCF, notamment tous ces grands groupes qui arrivent avec des Orange, quelle fourmilière. Orange, c'était absolument fantastique. On pourrait d'ailleurs passer les 4 jours, quelque part, sur un seul stand, tellement il y a de startups. Et c'est vrai que c'est un peu le parallèle qu'on prenait en comparant souvent aussi Vivatech à l'Eureka Park tel qu'on aimerait l'avoir au CES de Las Vegas.
Oui, c'est vrai que l'Eureka Park au CES de Las Vegas, c'est le lieu des startups, mais où chaque startup, quasiment, à part quelques pôles, est considéré comme un petit exposant. Et c'est vrai que on a notamment les allées qui sont dédiées à la French Tech. On a une série d'exposants les uns à côté des autres. Les allées qui sont dédiées à la Corée, très 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 présente cette année, enfin en 2024, en janvier, pareil, des exposants les uns à côté des autres. Et ces petits exposants, plus ou moins normés au niveau du stand, font leur présentation. Parfois, ils sont amener, et là on a toujours les gens qui viennent par le CEA, donc qui apportent toujours des startups extrêmement pertinentes avec lui dans ses bagages, ou des régions comme la région Rhône-Alpes qui avait son propre stand et qui avait ses propres startups. Donc Vivatech, c'est fort. Pourquoi? Parce que évidemment une entreprise comme Google, une entreprise comme Orange, une entreprise comme LVMH a immensément plus de moyens pour mettre en avant les différentes startups qui vont être présentes sur son stand que simplement la location de quelques mètres carrés alignés les uns à côté des autres, que ce soit sous le logo de la French Tech ou sous le logo de la Corée ou de la Swiss Tech ou de la Tech de Hollande. Et c'est vrai que le salon, le CES, ce qui fait vibrer au CES, évidemment, c'est les très grands stands avec le show. Et bien là, chez Vivatech, on a le show et les startups. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que l'année dernière, on se faisait la remarque, comme tu l'as si bien dit, on aimerait que le Eureka Park du CES ressemble à Vivatech, parce que vraiment, Vivatech, c'est à la fois les startups, mais c'est aussi le show. C'est peut-être ça, ouais, la différence.
Alors on est presque dans pour conclure ce chapitre sur l'explication de Vivatech et comment ça marche. Je dirais que cette année, est-ce qu'on sera vraiment sur le momentum où d'un côté tu as un peu de CES, un peu de Viva et en même temps un peu de South by Southwest ou du célèbre grand froid dans lequel tu participes, le slush de Helsinki. C'est vrai qu'on commence à arriver à un salon qui a une identité assez singulière et en tout cas qui fait que c'est un vrai festival. Et un vrai événement puisqu'il ne se présente pas. On l'a vu quand on a animé tous les deux la conférence à l'école Boulle sur le sujet. Il ne se présente pas comme un événement. Enfin, il se présente comme un événement et comme un festival, et non pas comme un salon de la tech à proprement parler, ce qui change aussi le positionnement. Alors, si on revient quand même sur l'édition 2023, quels étaient les grands sujets qui ont ponctué cette édition et peut-être une ou deux pépites qui t'ont marqué l'année dernière?
Alors, l'année dernière, on avait toujours de la réalité virtuelle, même si on était passé un an après Metaverse. Bon, on avait bien sûr l'intelligence artificielle, mais évidemment, cette intelligence artificielle que l'on a maintenant usage au quotidien via des développements applicatifs ou via des chatbots, n'était pas encore complètement développée. Et on verra que cette année, ça sera probablement tout à fait l'inverse. Mais on avait aussi beaucoup de choses sur la santé. Et ça, c'est très intéressant, notamment toute une santé qui peut être une santé qui développe des capteurs miniaturisés, des solutions qui sont des solutions de monitoring embarqué, des choses très intéressantes. Et puis, on avait cette allée qui, cette année, sera plus une allée dédiée à la green tech, alors, mais qui sera un bridge, puisque ça sera alors je crois qu'il l'appelle l'Eco Bridge, je sais plus comment il l'appelait, j'avais vu ça dans le communiqué de presse. Ils ont un nom, c'est en partenariat avec EDF.
C'est le... Il y avait l'Impact Avenue l'année dernière.
Qui était d'Impact Avenue. Merci Mathieu, d'Impact Avenue. Ils sont passés à Impact Bridge. puisque le hall numéro 1 et le hall numéro 2 à Porte de Versailles sont reliés par un énorme pont en verre très large, et c'est dans ce pont, c'est sur ce pont à l'intérieur, hein, de ce passage couvert, le long du périphérique, qu'ils vont installer l'ancienne Impact Avenue de 2023 en Impact Bridge cette année. Voilà.
Oui, parce que l'Impact Avenue est finalement devient l'IA Avenue, dans lequel on va principalement parler intelligence artificielle, qui sera un des mots-clés dominants de cette édition 2024. C'est vrai que l'année dernière, on a parlé beaucoup d'impact, on a parlé beaucoup de green tech, on a énormément parlé de tous ces sujets. Alors, bien que l'intelligence artificielle était quand même très présente, moi, je note qu'au-delà des sujets que tu as pu évoquer, la notion d'interopérabilité ressortait beaucoup. Cette capacité aussi à avoir une approche plutôt low-tech, penser une tech plus résiliente, un peu plus dans la sérendipité, un peu plus raisonnée et plutôt focus sur la valeur que la connexion Bouliboula. Et puis, une posture, alors je ne sais pas d'où ça venait, mais tous les start-upers qu'on rencontrait systématiquement avaient une approche positionnée sur le marché, la valeur, la croissance, qui était dans le discours. On est dans la tech, on veut faire des choses qui sont bien, et en même temps, on veut que ce soit des choses qui génèrent de la valeur et que ça rapporte. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé, qui était quand même assez présent l'année dernière. Je pense que, en tout cas, bon, il y avait quelques coups de cœur qu'on a pu avoir. J'en ai eu quelques-uns. Si je dois en aborder, en présenter deux, pour moi, il y a la pilule Paralive qui était présentée chez Orange et qui est une petite pilule que l'on ingère et qui va donner des facteurs biométriques sur la personne, notamment sa température corporelle pour le suivre en temps réel. C'est pour les personnes, notamment qui, dans le cas d'usage qui était présenté, souffraient d'un handicap lié à la mobilité et qui avaient besoin dans des activités sportives de pouvoir monitorer leur activité, faire leur température. Et puis après, des sujets que j'ai trouvé absolument génial, low-tech et hyper bien pensé, qui est une startup qui s'appelle Moïse et qui a développé, c'était un cas d'usage qui était notamment poussé au travers de la SNCF sur le monitoring de leur infra, qui était la façon dont un capteur très léger, autonome, j'entends par là qui ne dépend pas de l'électricité, pouvait se connecter, remonter de l'information via le réseau satellitaire, de l'information donc consolidée notamment sur des capteurs de température. Et il s'alimentait, ce petit capteur Moïse, par finalement les différences de température dans la journée qui permettaient par cette différence de pouvoir générer suffisamment d'électricité pour remonter une information légère à un système d'information plus global. Et ensuite, on peut imaginer tous les sous-jacents qui pourraient être intéressants là-dedans, données synthétiques et autres, qui étaient particulièrement intéressants en pensant rétrofit, finalement, des infrastructures ferroviaires ou des infrastructures qu'on a besoin de contrôler dans le transport pour ne plus avoir à tirer des câbles dans tous les sens et pouvoir avoir des choses qui soient plus légères à installer. Ça, et puis bien sûr, bon, il y en a eu plein d'autres, mais voilà, il y a eu le robot Mirokai aussi qu'on a revu ensuite au CES, qu'on va revoir
cette année.
Cette année, partout. Bon, c'est vrai qu'il est super, mais voilà, Mirokai, fantastique. Très santé orienté, mais très assistant orienté. Voilà.
Et moi, j'avais, puisque tu es parti en citant des noms, je ne sais pas s'ils seront présents cette année, mais ce qu'ils étaient sur le stand des aéroports de Paris, c'était la société Outside, tu sais, l'operating system du LIDAR, c'est-à-dire ce système agnostique qui peut se brancher derrière toute une famille de LIDAR très diversifiée et qui va être là pour gérer l'utilisation des informations produites par les LIDAR. Alors évidemment, dans l'aéroport de Paris, on sait ce que ça peut faire. Ça peut gérer la façon dont on va pouvoir observer et interpréter les mouvements de foule, à quel moment se trouvent les foules devant la porte F ou la porte K, etc., etc. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça peut aller évidemment d'une gestion de lieux publics fermés comme un hall d'aérogare, ou ça peut être une gestion d'un espace public ouvert. En tout cas, le LIDAR, ce qui est bien, c'est que il ne comprend rien, il ne voit que des formes, il n'interprète que des formes, il n'y a pas de visage, c'est RGPD friendly, hein, voilà, pour faire court. C'est un moyen vraiment très très efficace d'utiliser les données, et donc eux ont trouvé cette interface qui est capable de se connecter à un LIDAR et de fournir aux développeurs d'une entreprise les moyens d'exploiter à fond les données qui sont recueillies par ce dispositif de captation radar. Et puis sinon, parce qu'on parle de green tech aussi, moi j'avais beaucoup aimé une start-up qui s'appelle notre plat qui avait créé une solution d'emballage qui était vraiment durable, puisque cette solution d'emballage, elle était faite à partir d'algues et de plantes qui étaient évidemment biodégradables par excellence. Et ça offre forcément aux consommateurs que l'on est la possibilité d'user et d'abuser d'emballages qui ne détruisent pas la planète ou n'encombrent pas toutes les bennes à ordures qui sont au pied de chaque immeuble, enfin, et qui sont tous ces déchets d'emballage. Enfin, voilà,
des emballages géniques, le plus souvent, oui, totalement. Ah, mais c'est un vrai, c'était un vrai sujet, passionnant également, avec plein de belles découvertes. Et là encore, on n'a fait qu'effleurer, parce que dans les restitutions qu'on a pu faire, ça durait bien 1h10, 1h20, et on était à 10% de notre capacité de contenu, tellement il y avait de start-up. C'est ce qui fait aussi cette particularité de Viva, c'est quand même cette densité qui fait que si on veut que un Viva soit intéressant d'un point de vue valeur, à la fois pour nous-mêmes, à la fois pour de la veille, etc., c'est un Viva qui doit se préparer, au même titre presque qu'un CES finalement.
Mmh. Complètement, complètement, puisque ils annoncent, alors encore une fois, on n'est pas là pour compter, puisque la particularité aussi de VivaTech, c'est que beaucoup de startups, c'est très européen, hein. Beaucoup de startups sont là pour une journée, deux journées, mais pas forcément pour les quatre jours. Ils annoncent quand même qu'il y aura plus de 2500 startups présentes. Je ne sais pas toujours où ils les mettent, malgré tout.
Non, mais c'est un vrai sujet, mais il faut imaginer, pour ceux qui ne sont jamais venus, mais venez-y, parce que vous avez des fois un corner, et puis sur ce corner, vous avez trois startups en même temps, et ça donne effectivement un VivaTech où chaque jour ne se ressemble pas. Et donc, pensez... pensée émue pour ces quelques no-shows auxquels nous avons été confrontés l'année dernière, parce qu'il n'était là qu'une journée, genre le mercredi et le vendredi, mais pas le jeudi. Et donc, effectivement, tout ça, ça se prépare. Allez, quels vont être les sujets de 2024, même si on a déjà effleuré un petit peu les quelques-uns? On va parler d'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, à l'ère du génératif, des problématiques d'éthique, de responsabilité, de tous ces sujets-là, forcément, de durabilité et de mobilité.
Exactement, ça parle de mobilité. Alors, pour l'intelligence artificielle, c'est simple, hein, ça passe d'une technologie qui était une technologie pour l'entreprise, pour la gestion des big data, à un outil qui devient un outil indispensable parce qu'il s'adresse à l'utilisateur final que nous sommes au quotidien et que les entreprises commencent à les intégrer dans leur process. Ça, c'est évident. La Green Tech sera évidemment présente, puisque l'Impact Bridge, on en a parlé. Mais dans les transports, il y a un certain nombre d'annonces. Alors, on se souvient, il y a quelques années, tu te souviens, c'était la Citroën 1919, hein, 1919, qui était présente.
Une sorte de... Tu le dis bien. 1919.
Complètement futuriste, avec plutôt que de mettre des écrans partout, très minimaliste et très futuriste dans son approche, bien sûr 100% électrique. Et on nous promet cette année, malgré tout, parce qu'ils étaient en plus les grands absents pour nous Français et pour quelques sociétés américaines du CES, on nous prépare une venue remarquée de Stellantis, de Peugeot et de Stellantis, qui ambitionne de devenir le leader européen de la voiture électrique d'ici 2025. On va dire que si c'est sur la courbe d'augmentation en part de marché qui est la même que la courbe d'augmentation des revenus de son PDG, eh bien, normalement, ils devraient réussir à atteindre leurs objectifs.
Nous ne ferons pas de commentaires. Tout ce qu'on sait, c'est que mobilité, sustainability, donc durabilité, sont des sujets qui sont clés à noter. Hein, que, en tout cas, c'est les chiffres qui ont été communiqués. Que 37% des, j'essaye de rechercher le livre, 37% des partenaires qui seront présents sur VivaTech embarqueront avec eux par défaut des démonstrations autour de l'intelligence artificielle. Donc là, on voit que globalement, c'est quelque chose d'extrêmement transverse sur cette édition 2024. Alors, on l'a dit, le Japon sera mis à l'honneur. Naturellement, les sujets autour de la mobilité aussi. Alors peut-être de la mobilité avec de la technologie embarquée, peut-être des sujets autour de l'intelligence embarquée, mais aussi très certainement sur les matériaux. On avait vu beaucoup de choses l'année dernière sur les nouveaux matériaux, notamment vers le CNRS, un petit peu par là, tous ces stands sur lesquels il y a des sujets souvent complexes par nature, mais outrement passionnants. Alors à noter qu'il a été annoncé la présence d'Esper Bionics, qu'a lancé cette prothèse intelligente alimenté par l'intelligence artificielle et qui va être capable de recréer, enfin surtout d'anticiper les mouvements de l'utilisateur. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle générative, et tu en parles quand tu animes des conférences aussi d'intuition et de cette IA intuitive, on peut imaginer que ce sont des choses qui seront très certainement intéressantes.
Oui, et puis si tu veux parler d'IA intuitive, tu me lances le sujet. Il était
speaker... Il a sorti son stylo. Vous ne le voyez pas, mais il a sorti son stylo. Ça veut dire que ça va débiter, là.
Il était speaker l'année dernière dans un entretien assez féroce et plein de promesses, justement, sur cette IA qui, demain, pourrait être intuitive. C'est Yann Lequin, hein, le directeur de la recherche en intelligence artificielle chez Meta, qui dialoguait l'année dernière sur Vivatech avec Jacques Attali, eh bien, il revient cette année. Donc, cette année, on aura aussi Yann Lequin qui nous parlera d'intelligence artificielle. Et alors, pour certains, il est très détestable parce qu'il a une vision assez... je ne dis pas qu'il est persuadé que la singularité est pour demain, pour après-demain, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine. Ça, il ne le dit pas du tout. Mais il développe quand même aujourd'hui des modèles qui s'éloignent des modèles que l'on utilise, c'est-à-dire des LLM, des Large Language Models, pour aller sur ces modèles intuitifs qui ont besoin de beaucoup moins de datasets pour nourrir notamment l'intelligence du computer. Mais il fait toujours la remarque hein, qu'un adulte ou un jeune adulte de 17 ans apprend à conduire en 20 heures et que quelques centaines de milliers d'heures plus tard, l'intelligence artificielle ne sait toujours pas le faire. Tout du moins, aussi de façon aussi performante qu'un humain.
Donc, c'est comme l'histoire du chat, hein, où un homme de 3 ans voit 3 chats et il a compris que c'était un chat et que l'IA, tant que tu lui as pas donné les 1600 variétés potentielles qu'il dit, bon, forcément. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce gap. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans une phase de est-ce que c'est la fin du hype de l'IA et le retour au cadre de la réalité technologique de ce qu'elle permet peut-être véritablement? Je pense qu'on a quitté cette phase de fantasme et que dans la partie prospective, on peut se dire qu'il y a plein de choses qui sont possibles dans les 5, 10, 15, peut-être 20, 30 ans. Mais la réalité, c'est qu'au quotidien, la plupart peut-être des entreprises cherchent encore des poches de valeur suffisamment fortes en termes d'usage, dans des preuves de concept qui sont bien périmétrées réelles, avant d'entamer des passages à l'échelle qui sont extrêmement coûteuses et impactantes pour le modèle opérationnel du mois. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi aujourd'hui un retour à une forme de réalité, c'est « ok, and so what, ça me fait quoi ?» Et est-ce que le gain il est suffisamment important par rapport à l'intégration que je vais avoir dans mon entreprise ?
Ce qui est sûr, c'est qu'un des speakers du Slush comparait l'intelligence artificielle générative aujourd'hui à la révolution qu'avait contribué à mener l'apparition de l'électricité. Et je pense qu'il avait tout à fait raison parce que l'électricité, comme l'IA générative aujourd'hui, c'est juste un outil. Et encore une fois, Yann Lequin, ça sera intéressant à écouter parce que il nous démontrera que ces outils, on les emploiera comme des outils, et pendant qu'on emploiera ces outils, nous, on pourra faire d'autres choses avec notre cerveau qui est éminemment plus intuitif et plus intelligent, même si on cherche à rendre l'intelligence artificielle plus intuitive.
Donc des sujets, il y en a énormément, et c'est quelque chose qui va forcément impacter cette édition 2024 de la Deep Tech, très certainement, beaucoup de choses passionnantes. Est-ce que tu as peut-être vu... je sais pas, une start-up où tu dis ouais, ça vaudra vraiment le coup d'aller les voir parce qu'ils vont faire quelque chose qui risque d'être impactant ou game changer ou quelque chose comme ça.
Alors bon, celle que j'ai remarquée et que tu as remarqué, je crois aussi, c'est pour ça que tu me lances là-dessus, c'est une société française qui a été créée par deux jeunes ingénieurs qui s'appellent Biotheos et qui, sur la base d'algues, développe des technologies pour améliorer la qualité de l'air, donc de traitement de l'air, pour retirer les produits polluants et les virus et bactéries de l'air. Alors, actuellement, ils ont développé des systèmes qui sont relativement hauts, puisqu'ils sont quand même capables de traiter 700 mètres cubes d'air à l'heure. C'est ce que j'ai cru voir sur leur site internet. Ils sont français, donc allez-y sur leur site internet, Biotheos, B-I-O-T-E-O-S. Et ils travaillent avec la RATP parce que la RATP, on sait que c'est pas un endroit qui est pas peu pollué, hein, que ce soit les particules fines ou autres, mais ils travaillent aussi à réduire la taille de leurs dispositifs pour les adapter non pas au salon d'un particulier, mais plutôt à des espaces de travail. Et ça, c'est plutôt super, super pertinent parce que, encore une fois, ces algues microscopiques qui servent de moteur, on va dire, à la dépollution de l'atmosphère ambiante, c'est plutôt quelque chose qui soit intéressant. Je suis impatient de les rencontrer et de leur demander la capacité en termes de mètres cubes, ce que ça peut représenter, parce qu'afficher d'un nombre de mètres cubes, pour nous, ça représente probablement pas grand-chose. On a du mal à mettre une valeur sur ce que peuvent représenter ces volumes.
Ça fait partie de ce genre de pépites là que tu rencontres et que d'un seul coup il y a des trucs qui se dessinent avec plein de cas d'usage. Bon, tu m'as lancé sur l'agriculture, donc j'avais peut-être une petite dernière. Ils sont japonais, ça permettrait de faire le ça s'appelle Agrist, et aujourd'hui Agrist va travailler en tout cas sur des typologies de robots, donc ça me fait penser notamment à nos amis
John Deere.
À John Deere fantastique qu'on a pu voir avec chaque année, c'est grandiose, c'est des gros joujoux pour gamins agriculteurs, parce que franchement c'est dingue ce qu'ils font avec ces robots. Eux, ils ont développé des robots qui vont faciliter les problématiques de récolte et qui vont surtout permettre, hein, c'est ce qu'on avait vu sur la plateforme de John Deere, d'analyser en temps réel les données qui vont être relatives au sol, à la qualité du sol, pour améliorer et anticiper la gestion des cultures. Donc, ça va être notamment toute l'analyse des problématiques de stress hydrique qu'on va pouvoir retrouver sur les plantes, peut-être des maladies. Ça fait partie, voilà, finalement d'une technologie au service d'une agriculture peut-être plus raisonnée dans l'usage des pesticides et fongicides, une agriculture qui anticipe un peu mieux ses poches de production et qui produit de manière peut-être plus rationnelle, en considérant que le sol est une réserve qui pourrait potentiellement se tarir, et donc il faut naturellement optimiser sa capacité de production. Voilà, ça fait partie des startups, enfin des boîtes que j'ai vraiment envie avec lesquelles d'échanger et de rencontrer sur cette édition 2024 de VivaTech. 27 minutes, on s'était donné moins de 30 minutes. On est presque, Lionel, on va y arriver. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Quel serait le dernier conseil ou le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui vont visiter cette édition 2024?
Alors, qui n'hésite pas, hein, puisqu'on a comparé VivaTech à une petite partie du South by Southwest, qui n'hésite pas à assister aux conférences. Sur le site internet, il y a un planning qui est bien mené sur les différents stages, hein, qui sont à disposition à l'intérieur du Hall 1. Et puis, alors, allez voir, bien sûr, j'ai cité Yann Lequin, mais on va avoir quelques grands noms. Alors, on va avoir notre français, comment il s'appelle, Thierry Breton, hein, commissaire à la Commission européenne chargée du marché intérieur. On va avoir l'ancien secrétaire d'État sous la présidence américaine de Barack Obama, qui est John Kerry, hein, qui vient faire une conférence. Mais il y a une personne que moi j'irai voir particulièrement. Elle s'appelle Linda Iaccarino. Et qu'est-ce qu'elle fait, Linda Iaccarino? Elle a été nommée, elle vient des médias, et elle avait été nommée il y a quelques mois, à peine un an maintenant, et ça fera un an, je pense, en mai, lors de VivaTech, à la tête de X, ex-Twitter, par le célèbre Elon Musk. Voilà.
Ouais, ça risque d'être ultra sharp dans le discours. À mon avis, c'est ultra, ultra surveillé. Très intéressant. Ça va être passionnant. Préparez donc votre parcours. J'en profite pour faire un peu de réclame. Passez nous voir quand même sur le stand de Cap, parce qu'on a une démonstration. Enfin, on en a plusieurs, mais il y en a une qui est vraiment, enfin, deux. Enfin, toutes. Mais en tout cas, une qui s'appelle, je peux spoiler parce que c'est officiel.
Pas de jaloux.
Ça s'appelle la Forest Planting Machine, qui est le premier 4x4 écologique léger compact qui va être équipé d'une traction hybride électrique hydrogène et qui permet de planter environ 1500 plantes en une journée sur une autonomie 30 à 40 km/h. Le prototype sera là. On pourra pas le tester pour planter quelque chose, mais en tout cas, il sera là et on pourra, j'espère, peut-être même monter dedans en fonction d'eux. Et puis, un petit sujet qui vient de la recherche innovation chez nous qui s'appelle NeuroCoach et qui est ce qui va permettre aujourd'hui, c'est une application mobile qui permet de surveiller la concentration et la charge de travail, le tout avec des capteurs, donc c'est cérébraux, donc c'est tout ce qui va tourner autour des interfaces cerveau-machine. Voilà, donc ça utilise l'apprentissage automatique et le deep learning pour pouvoir optimiser, analyser les signaux cérébraux. Voilà, une expérience en soi, peut-être à vivre, en tout cas, n'hésitez pas, même si on a pas mal d'autres démos, mais peut-être qu'on en parlera, on aura de la Gen AI forcément, etc. Voilà, passez-nous voir. C'était l'instant réclame. Il est 29 minutes 56 secondes, on va y arriver. Voilà. On espère vous voir et vous retrouver sur VivaTech. C'était un premier épisode aperçu de cette édition 2024. Bon, on vous rappelle, bien entendu, avec Lionel, que vous pouvez nous retrouver sur innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Partagez la bonne parole et on se retrouve très vite, soit sur le floor de Viva, soit pour d'autres épisodes en amont de cette édition 2024. Salut Lionel et salut à tous. Bye bye.
Bye bye.